Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans Nos Ciné Spécial Cannes, je suis David Honorat et j'ai le plaisir de vous retrouver cette fois pour un hors-série consacré au marché du film avec moi Arnaud Bordas qui l'a pas mal arpenté pendant la quinzaine et qui a pu voir quelques films aux projections du marché, avoir des infos sur les deals, les financements, qui a connu aussi quelques ratés dans ce qu'il essayait de voir. Arnaud, tu vas pouvoir nous raconter toutes les coulisses de ce qui est un aspect fondamental du festival, parce que au-delà de présenter des films en sélection, c'est avant tout un rendez-vous de business qui permet aux films de s'échanger dans le monde entier.
Voilà, tout à fait. Bonjour David.
Salut.
Donc, c'est effectivement. Alors, on en parlera davantage dans la deuxième partie de ce Nos Ciné avec Perrine, puisqu'on a interviewé le directeur du marché.
Voilà, Perrine va nous rejoindre en deuxième partie d'émission pour présenter l'interview que vous avez faite de Jérôme Payard.
De Jérôme Payard,
directeur du marché du film.
Mais c'est vrai que c'est quand même le plus grand marché du film au monde. Il y en a quelques-uns dans d'autres grands festivals, comme à Berlin.
Il y en a un qui s'est créé à Venise il y a quelques années.
Tout à fait. Il y en a un qui est assez gros aussi à Los Angeles, l'American Film Market, l'AFM. Il y a aussi pour l'Asie, notamment Busan, Corée du Sud, qui est très important. Mais Cannes reste le plus grand marché du film au monde. Donc c'est toujours intéressant, évidemment, pour un journaliste d'aller braconner un petit peu là-dedans, parce que même si c'est difficile, parce qu'évidemment, quand on a une accréditation journaliste, on n'est pas amené à aller.
Oui, voir. parce que en fait, dans le timing pour les films, c'est pas encore vraiment le moment où ils veulent que les journalistes en parlent.
Tout à fait, ouais. Et alors donc, il faut s'arranger, il faut le voyer, faut aller au stand des distributeurs dans les différents hôtels, réclamer des invitations, ou alors se pointer au dernier moment et voir si on peut rentrer dans la salle, tout ça. Bon, c'est des tractations. Ça se fait souvent aussi quand on essaie de couvrir un peu le marché, un peu aux dépens des autres sélections, parce que des fois on rate des choses. Hein. Moi, il y a quelques films quand même que j'ai pas pu voir, même si j'ai vu pas mal de choses, notamment dans les sélection parallèle, mais voilà quoi. Moi, ça m'intéresse toujours parce qu'il y a un côté un petit peu aventureux, un petit peu. On ne sait pas sur quoi on va tomber. On rentre dans une salle. Bon, tiens, voyons ça. Et puis voilà. Alors, il y a évidemment aussi beaucoup de déchets parce que c'est. Il y a beaucoup de séries B voire de séries Z qui sont proposées. Mais ça peut être marrant, ça peut être fun de voir qu'est-ce qui se fait dans tel ou tel pays. Voilà. C'est vrai que cette année, par exemple, il y avait quand même une assez forte présence de la Chine, de pays d'Amérique du Sud aussi, comme l'Argentine. Enfin, ça, je crois qu'on en parle un petit peu aussi avec Jérôme Payard, le directeur du marché. Il y avait pas mal d'animations aussi. On en parle aussi avec Payard, mais il y a un partenariat avec Annecy. Donc, l'animation s'invite de plus en plus au marché. Bon, avec souvent des produits très bas de gamme. J'ai vu pas forcément des longs métrages en entier, mais des extraits de trucs industriels à destination des gamins, mais qui sont d'une indigence technique affolante, quoi, qui ressemble à des dessins animés en images de synthèse produits il y a 20 ans, quoi, avec souvent des petites troupes d'animaux rigolos. Là, c'est toujours la même chose, les affiches se ressemblent toutes. On peut peut-être noter. Puis il y avait quand même aussi pas mal d'animations, justement. Il y en a de plus en plus dans les sélections officielles. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais dans les différentes compétitions. Mais il y avait des films comme le français J'ai perdu mon corps, qui était un petit peu décevant, moi, je trouvais, ou la fameuse Invasion des ours en domicile du dessinateur de BD Lorenzo Mattotti. Mmh. Voilà. Donc c'est vraiment de plus en plus présent l'animation à Cannes. Et au marché, donc, mis à part les produits industriels indigents dont je parlais, il y avait quelques trucs intéressants, comme notamment surtout la première grosse super production d'animation chinoise qui s'appelle White Snake, réalisé par Amp Wong et Zhao Ji, c'est un duo de réalisateurs, et qui est une illustration, une nouvelle version un petit peu de la légende du serpent blanc. Okay. Et du serpent vert, qui est une vieille légende chinoise, hein, qui date d'il y a, je crois, 500 ou 800 ans, je ne sais plus, et qui avait déjà été illustrée par un magnifique film de Tsui Hark au début des années 90, qui s'appelait Green Snake. Hein. Si vous n'avez pas vu Green Snake, c'est un chef-d'œuvre. Et donc là, c'est White Snake, c'est le duo, c'est deux déesses serpents, en fait, qui prennent l'aspect d'être humain, et donc le serpent blanc, là, va tomber amoureux d'un être humain. Voilà, c'est un petit peu une version chinoise de La Petite Sirène, hein, du conte d'Andersen, quoi. Et donc là, c'est un long métrage qui est produit clairement pour et qui est vendu un petit peu comme la Reine des Neiges chinoise, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire vraiment un gros blockbuster. C'est entièrement du full CGI. Alors, on voit qu'ils sont pas encore tout à fait habitués à ça, les Chinois. Donc il y a un petit peu un manque de savoir-faire, je trouve, tant au niveau de l'animation que de la narration. Mais ça, je pense que c'est des choses qui vont se mettre en place et arriver au fur et à mesure. Il n'empêche que c'est un long métrage qui a eu un gros budget, qui a été un très gros succès en Chine, qui est coproduit par la Warner quand même. Il y a quand même des fonds américains. Et il y a vraiment, outre les petits défauts de savoir-faire dont je parlais, il y a vraiment quelques très belles scènes. Il y a des très beaux visuels. Je pense notamment au final où le serpent blanc et le serpent vert affrontent un autre serpent beaucoup plus puissant. Il y a des plans très contemplatifs, très chargés au niveau des textures, avec le vent dans les arbres, des matières de feuilles qui volent devant l'écran, les nuages et tout. Enfin, c'est vraiment très beau, hein, je pense. C'est dû essentiellement au budget. Il y a une scène étonnante, il y a une scène de cul au milieu du film. Qui reste quand même à destination des enfants, mais je veux dire, on voit quand même les fesses et les seins du personnage féminin principal. Donc, c'est assez étonnant parce qu'on ne verrait jamais ça dans un Disney, mais ça, c'est les surprises des fois qu'on a avec l'industrie du cinéma chinois. Ils ont peut-être pas forcément les mêmes codes que nous. Voilà, donc c'est intéressant. Je ne sais pas si ça sera distribué en France, hein, mais je pense, vu quand même la gueule du film.
Tu peux rappeler le titre, du coup?
White Snake, serpent blanc. Voilà, donc pour l'animation. Je disais après, par exemple, c'est vrai qu'il y avait un pays qui est de plus en plus présent, qui se développe de plus en plus en Amérique du Sud, c'est l'Argentine, souvent avec des coproductions avec l'Espagne, d'ailleurs. Mmh. L'Espagne, je vais y venir après, parce qu'ils sont toujours très présents sur le marché. Donc oui, l'Argentine. Alors, j'ai rien vu de transcendantal, hein, à vrai dire. Il y a beaucoup de séries B qui sont produites, mais en général, quand c'est ça, c'est que c'est la marque d'une industrie qui se développe de plus en plus. Ouais. Je sais pas, par exemple, j'ai vu une sorte de de film post-apocalyptique, Soy Toxico, en titre international, c'est I Am Toxic, de Pablo Parés et Daniel de la Vega. Donc, c'est un truc un petit peu à la Mad Max avec des infectés. Voilà, bon, c'est assez ridicule, le film. C'est dommage parce que le premier quart d'heure laisse présager, il y a de très bonnes idées. Ça se passe dans un monde où il y a eu une pandémie comme ça qui a ravagé la Terre et où, en fait, les pays de l'hémisphère nord développés déversent leurs cadavres infectés par avion. Il y a une image assez étonnante avec des gros avions militaires comme ça qui laissent tomber des corps par dizaines, quoi, sur le sol. Et voilà, et puis qui marque aussi cette défiance de l'Amérique du Sud par rapport à l'Amérique du Nord, qui est assez présente dans le cinéma argentin. Mais ça tient à peu près un quart d'heure, quoi, ça, la tenue du film. Et après, ça évoque davantage les rats de Manhattan de Bruno Mattei que Mad Max. Je disais effectivement, le cinéma espagnol toujours très vivant, toujours très productif, toujours très présent sur le marché. Et c'est d'autant plus agréable que c'est les boîtes de distribution espagnoles sont vraiment les plus sympas vis-à-vis des journalistes. C'est-à-dire que j'ai quasiment jamais eu aucun problème à rentrer dans une salle pour voir un film espagnol. Là aussi, peut-être que ce que j'ai pu voir était quand même moins étonnant étonnant que ce que j'ai vu l'an dernier, où il y avait vraiment une très bonne...
Tu avais vu notamment El Reino,
auquel
on a consacré une émission en ciné récemment.
Voilà, tout à fait, ouais. Et qui était vraiment un film étonnant. Là, c'est pas forcément le cas. Hein. J'ai pas eu des films...
Des chocs à ce point-là.
Des films de ce calibre-là, quoi. Mais j'ai pu voir notamment un petit thriller espagnol qui... Alors, impossible de retrouver sur Internet le nom du réalisateur. Je ne sais pas qui c'est qui l'a réalisé. Mais ça s'appelait House, avec le donc la maison hein, en anglais, mm-hmm. Avec le final inversé en forme de 3, quoi. Et assez étonnant, bon, je ne veux pas m'apesantir dessus, mais en gros, c'est une sorte de croisement entre, on va dire, du Claude Sauté, ou en tout cas le drame bourgeois à la française, ouais. Comédie de mœurs, un peu de ça, et Matrix.
Ah oui.
voilà, c'est-à-dire c'est des couples de citadins, d'anciens étudiants de fac qui se retrouvent pour la première fois depuis pas mal de temps dans une maison bourgeoise en campagne pour le week-end. Et ils vont jouer, ça fait penser un peu au jeu, le film de Fred Cavalier, qui était déjà un remake d'un succès du box-office italien, ouais. Et qui avait été remake en Espagne.
Qui avait été dans plein de langues différentes.
Voilà. Et c'est ils se réunissent dans une maison et ils jouent à un jeu, en fait, parce qu'il y a parmi eux un Anonymous qui a leaké des trucs top secrets sur Internet. Okay. Et il va les dévoiler. Et alors, si jamais ça finit par sortir en France, je veux pas trop en dire de plus, mais on va basculer d'un seul coup, dans du fantastique pur, okay. Et tout en restant autour d'une table avec des gens, quoi. Et c'est très bien dialogué, c'est plutôt bien joué, et c'est un parti pris étonnant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore dans le cinéma espagnol? Il y avait aussi un film... fantastique qui s'appelait Le Pacte de David de Victory avec la très grande actrice espagnole Belén Rueda qui tourne beaucoup elle. Donc c'est un film fantastique sur une mère qui a un syndrome de surprotection par rapport à sa fille, qui essaie de la mettre sous une cloche qu'au jour cette fille a un accident et je veux pas trop spoiler aussi parce que ça a peut-être des chances d'arriver dans nos contrées quoi, mais on va basculer peu à peu dans un film fantastique qui se veut angoissant, mais qui est pas trop réussi au final parce que beaucoup de rebondissements un peu téléphonés, du déjà vu, voilà tout ça. Donc en gros pour les Espagnols, il y avait aussi, mais moi j'espérais un petit peu le voir, mais on n'a même pas pu voir des extraits. Il y avait aucune projection. Le prochain film de Alejandro Amenábar, ouais. Qui s'appelle, le titre international c'est While at War. Et le titre espagnol, c'est Mientras dure la guerre.
Pendant la guerre.
Voilà, ça sort le 27 septembre en Espagne. Et là, il était totalement, mais même pour des acheteurs, je crois, impossible de voir quelque chose. En fait, c'est un film, je pense, assez étonnant. Une fresque historique qui se déroule en 1936 en Espagne, pendant la guerre civile, et qui raconte en fait le parcours de ce philosophe et poète espagnol très connu en Espagne, Miguel de Unamuno, qui était un grand universitaire aussi, et qui a commencé la guerre civile en défendant, parce que c'était un nationaliste, en se rangeant du côté des franquistes, et puis qui, au fur et à mesure, en voyant ses amis universitaires être enfermés les uns après les autres, a fini par basculer de l'autre côté.
Basculer,
voilà.
Ouais.
Donc, à voir. Le prochain Amenábar, c'est toujours un événement. Qu'est-ce qu'on a pu voir encore? Bon, j'en ai terminé un peu avec l'Espagne, mais oui, il y a le cinéma australien aussi, où il y a pas mal de séries B australiennes. Alors, c'est toujours intéressant, parce qu'ils ont une vieille tradition là-dessus, hein, depuis les années 70. Les Australiens, j'ai vu notamment un film... pas d'invasion extraterrestre, mais situé dans l'outback, justement, dans un petit bled paumé australien qui s'appelle The Dust Walker et qui est réalisé par la réalisatrice Sandra Skiberas. Et là, pareil, qui pouvait faire un petit peu illusion au départ, parce qu'en fait, c'est un film d'infection quoi, extraterrestre, avec un virus extraterrestre qui débarque dans un bled paumé comme ça, et puis qui va peu à peu posséder les habitants. Et c'est pareil, ouais, au bout d'un moment, ça devient vraiment pas possible, les scènes se répètent, les infectés sont totalement ridicules, les effets spéciaux sont, mais à mon avis, le film n'était pas terminé, sont totalement à la ramasse. Il faut font apparaître un alien gigantesque à la fin, mais qui semble sorti tout droit d'une production de dixième catégorie, quoi, voilà. Mais c'est vrai que les même si le film était pas bon, ça reste assez sympathique de pouvoir voir comme ça que le cinéma australien continue cette vieille tradition de la série B produite à peu de frais. Et puis c'est de là que viennent des cinéastes comme George Miller aussi, donc c'est toujours un vivier qu'il faut péter. Quoi d'autre encore à ce marché du film? Oui, il y a eu aussi une projection. Alors là, on est sur un côté un petit peu plus technique, on va dire. Il y a eu une démonstration de contenu 8K. Avec ils avaient ramené un projecteur spécial, un écran spécial. Alors bon, c'était des images. Images de grandes cités, voilà, des images test avec où on filme Tokyo par exemple en vue aérienne et tout, mais c'est vrai que
on voit bien toutes les fenêtres.
Mais c'est hallucinant, hein, parce que tu vois ça en fait, tu te dis couplé avec de l'IMAX et de la 3D, ça doit être gigantesque, quoi. Ouais. Parce que là déjà, t'avais déjà un effet 3D. Je me rappelle notamment une vue aérienne de Tokyo à un moment qui est très haute comme ça, et on passe en haut d'une tour qui culmine à je sais pas combien là, et en fait on a vu la définition de l'image, juste avec ça et la profondeur de champ, on a presque l'impression d'un effet 3D, de toucher la tour au moment où on passe sur elle. Ça laisse présager quand le cinéma va se mettre à ce format-là, de choses assez réjouissantes.
Il y a aussi un peu une évolution avec Cannes cette année, il y a toujours les problèmes avec Netflix au niveau des sélections, et il y a un conflit. Malgré tout, les plateformes sont présentes au marché pour faire l'acquisition.
Tout à fait.
Est-ce que t'as eu des retours là-dessus?
Non, alors là, j'ai pas eu grand-chose, mais je vais pas m'impesantir là-dessus, parce qu'on en a parlé avec Perrine et Jérôme Payard.
On reviendra.
Il nous a fait une réponse assez intéressante là-dessus, d'ailleurs. Mais c'est vrai que oui, le marché, c'est le lieu du business, donc il n'est pas du tout touché par les polémiques qui ont lieu sur la compétition et les sélections parallèles, parce que c'est juste du business et que les gens, là, ils viennent pour faire ça, quoi.
Et alors, du coup, au-delà des films qui sont terminés et en vente et donc montrés au marché, il y a aussi des choses donc, qu'on peut voir. Il y a un film que tu as raté.
Voir. C'est-à-dire, ça, c'est les réjouissances du marché, mais en même temps les déceptions. C'est que il n'était pas dans le programme officiel à la base. Mmh. Et la veille, on a appris qu'il projetait Boss Level, le nouveau film de Joe Carnahan, qui était, moi, personnellement, une de mes plus grosses attentes de l'année. Il sort à la mi-août aux États-Unis. On n'a pas encore sorti en France. Rapidement, en gros, c'est une sorte de un jour sans fin, mais en version film d'action à tendance militaire. C'est-à-dire, c'est bon, il y a un casting assez impressionnant. Il y a Franck Griot, qui est un compère et un ami de Joe Carnahan. Il collabore souvent avec lui. Il y a Mel Gibson, surtout, qui joue le grand méchant. Il y a Naomi Watts. Il y a Michelle Yeoh. Et alors, en gros, donc, c'est un ancien des forces spéciales joué par Franck Griot qui se retrouve piégé dans une boucle temporelle à l'issue de laquelle il meurt systématiquement. Et il va essayer de s'en extraire.
Un peu comme le film avec Tom Cruise.
Oui, il y a Geoff Tomorrow aussi.
Tomorrow.
Sauf que là, c'est quand même moins SF. Quoi, hein, c'est, en tout cas, c'est plus réaliste, plus ça se passe.
Plus contemporain.
Plus contemporain. Et donc, il se retrouve dans cette boucle temporelle, et pour essayer d'enrayer sa propre mort, il va finir par mettre à jour une sorte de complot politico-militaro-industriel à la tête duquel siège Mel Gibson. Donc, et voilà. Donc, ça, c'est le pitch. Gros casting, je dis. Carnahan à la réalisation et au scénario. Et donc, j'avais très envie de voir ça. Ils l'ont annoncé la veille. Je sais que j'ai fait des pieds et des mains, j'ai essayé de contacter le distributeur français parce qu'il y avait un distributeur français. Je suis allé voir le vendeur qui m'a dit non, pas de journaliste et tout. Enfin, voilà, jusqu'au moment de la projection, je pensais pouvoir y aller. Mais pour vous dire, j'ai même un ami qui avait son badge d'acheteur qui est rentré. Et un ami français, donc, après l'avoir, l'ouvreuse l'a laissé entrer, le vendeur est venu dans la salle et l'a extrait de la salle en lui disant « Vous êtes français, le film a déjà été rendu en France, vous sortez, vous n'avez pas besoin de le voir. »
Donc
c'était, voilà, il y a évidemment quelques projections comme ça qui sont très, très surveillées.
Et du coup, alors à côté des projections, le marché, c'est aussi pas mal de films qui sont qu'à l'état de projet, parfois sur lesquels il y a juste un bout de casting, éventuellement une affiche prévisionnelle, un synopsis, parfois des scénarios, parfois des choses plus avancées avec quelques images à montrer, et puis aussi des choses qui se passent en fait complètement en coulisses. Tu as quelques infos voilà, sur des deals, sur des choses un peu prospectives dont
oui.
tu voulais nous parler.
Oui, ouais, tout à fait, David. C'est-à-dire qu'il y a deux versants, en gros, dans le marché. Il y a un versant exposé à la lumière, c'est-à-dire les stands qu'on parcourt avec des projections, c'est-à-dire les films en général qui sont finis et que les acheteurs viennent à Cannes pour voir un petit peu et puis éventuellement donc acheter quoi et pour les distribuer dans le reste du monde. Et puis après il y a un côté un peu plus obscur, un peu plus qui relève un peu plus de la coulisse et qui en général se passe dans les appartements des palaces cannois, éventuellement dans les soirées, j'imagine, dans les carrés VIP des soirées cannoises, ouais. Et qui concernent le financement. C'est-à-dire, ce sont des producteurs qui viennent avec un projet dont ils sont les porteurs et qui vont proposer au financement de différents pays étrangers où les films sont susceptibles de sortir pour pouvoir réunir le budget, en fait. Et par exemple, on a eu deux exemples pendant ce festival. C'est Colt, qui est un projet étonnant. C'est un western, donc, comme son titre l'indique, qui est produit par la fille et le fils de Sergio Leone, d'après une idée de leur père, et qui sera réalisé par Stefano Solima, donc très grand réalisateur italien, qui nous a donné des films comme ACAB, et puis qui est parti après à Hollywood faire...
Donc il a fait Subura, et c'est lui qui a fait Subura, la suite de Sicario. Subura.
Et la suite de Sicario, voilà, avec Benicio del Toro et Josh Brolin, qui était pour moi l'un des meilleurs films d'action de ces dernières années.
Puis,
quoi.
Et puis il avait fait aussi à la télé
aussi.
Les épisodes de Gomorra et de Romanzo Criminale.
Tout à fait. Et c'est le fils d'un très grand réalisateur du western espagnol, hein, Sergio Solima, qui nous a donné le dernier Face à Face, qui est un chef-d'œuvre avec Gian Maria Volonté, Thomas Millán, et puis d'autres aussi comme Colorado, Saludos Hombre. Et donc c'est étonnant de le voir revenir au genre de son père qui est décédé il y a 2 ans, hélas. Et donc voilà, avec Colt qui serait un western, donc assez spécial, qui tourne autour d'une arme qu'on s'échange, un peu comme. On a déjà vu ça plusieurs fois, y compris le fameux billet de banque de Robert Bresson, et qui donc, en passant de personnage en personnage, va finir par dresser une sorte de portrait de groupe. Donc, il y aura des adultes autour, mais ça sera centré surtout sur des gamins, des orphelins qui trouvent ce flingue, des gamins de 12-13 ans et qui se passent ce flingue-là. Quoi, voilà. Et donc, ça devrait rentrer en tournage à l'automne prochain et les producteurs, l'hiver prochain, je crois. Et les producteurs étaient là à Cannes donc, pour pouvoir financer ce film. Bon, qui ne va pas être un énorme budget non plus, hein, mais voilà. Et le deuxième projet qui me semblait notable, c'est le grand retour de John McTiernan, qui est maintenant acté, hein, là c'est définitif, je pense, avec un film de science-fiction qui s'appelle Tossetti 4, sur lequel il travaille depuis plusieurs années déjà, dont il a écrit le scénario, son premier scénario depuis Nomad, son premier film.
Avec Uma Thurman.
Avec Uma Thurman et j'ai à nouveau un trou, l'acteur principal de Warcraft de Duncan Jones. Donc en tout cas, on a ces deux acteurs au casting. Le film devrait rentrer en tournage en septembre. C'est White Bunch avec Vincent Maravel qui s'occupait du financement ici à Cannes. Et l'acteur, voilà, c'est Travis Fimmel, hein, notre acteur du film. Donc le film, je disais, devrait rentrer en tournage à l'automne au Monténégro et en Espagne. Et alors en gros, les gens ont vu circuler un petit peu le pitch, mais c'est un film de science-fiction, mais qui sera très proche d'un univers graphique à la 13e guerrier, c'est-à-dire de boue, de fumée, de toutes ces choses-là, avec trois mercenaires, dont une femme, qui arpentent un territoire désolé, post-apocalyptique comme ça, qui vont attraper avec eux un enfant, une fillette orpheline, et qui vont devoir affronter une sorte de seigneur de guerre qui les poursuit. Et en fait, c'est dans un univers très réaliste qui est évoque graphiquement et visuellement la guerre de 100 ans, le Moyen-Âge, mais il va y avoir peu à peu au milieu du film une surprise et donc qui oriente le film vers la science-fiction, mais ce n'est pas un truc de voyage dans le temps à raconter McTiernan. Ça se passera vraiment à cette époque-là, donc à suivre, parce que c'est étonnant en fait, les personnages des trois mercenaires s'expriment de manière très contemporaine alors que les villageois autour s'expriment de manière ancienne.
Ça sera un film historique de science-fiction.
Ouais, voilà.
ce qui n'est pas si courant.
Voilà, je ne peux pas en révéler trop davantage sur le pitch, mais c'est un truc très étonnant, je pense. Quoi dire d'autre parmi les infos qui ne sont pas sur Internet? Je sais que j'en ai parlé un petit peu avec la femme de John McTiernan, qui est productrice sur le film. Le film, normalement, devrait être à Cannes l'an prochain. Alors, je ne sais pas s'il sera forcément dans une sélection.
Devrait être prêt pour Cannes, en tout cas.
Voilà, il devrait être prêt pour Cannes l'an prochain. Ce qui fait énormément plaisir sur ce film quand on est fan de John McTiernan et qu'on sait que donc il va enfin pouvoir revenir à la réalisation, je crois, 16 ans après la sortie de son dernier film. Hein, ça fait un gap énorme. Tous ces déboires et puis tous les projets qu'il a essayé de monter entre temps, qu'il n'a jamais réussi à monter, à cause de ces déboires, justement, judiciaires. Et là, ce qui fait plaisir, c'est de savoir qu'il y a, parce qu'il a essuyé pas mal de producteurs opportunistes, de marchands de tapis, de margoulins, tout ça, qui ont essayé de travailler avec lui pendant la période. Mais là, il a vraiment un très, très bon producteur, un vrai professionnel, qui est le producteur, en fait, de. Je n'ai plus toute ma tête à moi, là.
C'est dur, la fin de festival.
Ouais. Qui est le producteur le réalisateur de La Nuit nous appartient, James Gray. Voilà, et qui, d'ailleurs, il a produit plusieurs films de James Gray, et il est en train de produire son prochain film, qui sera un gros film de science-fiction avec Brad Pitt. Et donc, voilà, c'est quelqu'un dans le milieu qui a une certaine assise, qui a travaillé sur des projets assez prestigieux, et qui va permettre, je pense, assez prestigieux, et en même temps, qui respecte le final cut, les volontés d'auteur des réalisateurs, hein, puisqu'il a encore une fois une collaboration assez fructueuse avec James Gray, et qui donc peut être un vrai protecteur pour McTiernan sur ce projet et l'aider à accoucher de la vision du film qu'il a, quoi. Voilà, et le producteur, donc, c'est Anthony Katagas.
D'accord.
Me souffle David.
Ah, la technologie, magnifique.
Voilà. Et donc voilà, Toh City 4, gros espoir pour l'an prochain à Cannes. John McTiernan est de retour.
Voilà. C'est super tout ça. Et donc, pour terminer cette hors-série spéciale marché du film de Cannes 2019, on a envoyé nos petits reporters, Arnaud Bordas et Perrine Kenson, rencontrer Jérôme Payard, le directeur du marché du film, qui a pu vous donner quelques infos et puis vous parler de l'évolution, en fait, du marché. Alors, Perrine, comment s'est passée la rencontre?
Tu dis ça comme si on était des petites Dora l'exploratrice de l'interview.
Oui, voilà, il y a un petit côté Tintin.
Tintin et le capitaine Haddock.
Ah, ouais, c'est ça.
Je suis ad hoc, hein. Ça, la question se pose même pas, hein. Je suis ad hoc. On a pu rencontrer Jérôme Payard, qui est le directeur du marché depuis un bon moment maintenant. Et c'est vrai que c'est les 60 ans, en fait, cette année du marché. Donc, c'était un événement pour ce qu'avait dit tout à l'heure Arnaud, le plus gros marché du film mondial. Hein. On a beau dire qu'on veut se la péter à chaque fois, mais la réalité, elle est là, en vrai.
Acheteurs et tous les vendeurs ont un petit 60 doré sur leur badge pour l'anniversaire.
C'est joli tout plein, ils font attention. Non, c'était une édition intéressante en termes de chiffres aussi, c'est-à-dire qu'ils ont eu un petit peu plus d'accrédités que les autres années. Ça s'est joué avec quelques... mais le marché est en permanence en évolution par rapport à ça. Des accrédités principalement composées de producteurs. Parce que, comme disait tout à l'heure Arnaud, c'est vrai que le marché avant toute chose, c'est le financement, c'est la première chose. Et les gens qui viennent tenter leur chance de pitcher des films pour, pourquoi pas, créer la petite histoire de c'était un soir en buvant du gin tonic à Cannes que ce film s'est fait. Donc, parce que c'est ce genre d'histoire dont tout le monde rêve un petit peu, pas du gin tonic, mais le fait que ça se fasse à Cannes. Et donc voilà, il y avait un petit peu plus d'accrédité. Il y a eu des petites nouveautés. Par exemple, ils ont lancé, c'est le premier festival à lancer ça, une garderie.
Oui.
Ça paraît anecdotique comme ça, mais c'est important en vrai, parce que la garderie, beaucoup de professionnels du cinéma étaient bien embêtés avec les enfants, à cette demande d'une organisation pas possible. Et souvent, si un couple est fait de deux personnes qui travaillent dans le milieu, un était obligé de rester, de pas travailler, ce qui était quand même assez problématique. Là, ils ont organisé une garderie qui a plutôt bien marché, du moins selon les termes de Jérôme Payard. Après, il va peut-être pas nous dire le contraire non plus. Mais en tout cas, ça a plutôt bien fonctionné. Et après, on a pu, avec Arnaud, lui poser quelques questions sur cette année du marché. Je peux peut-être commencer avec la première question en soi, c'était vraiment de se poser qu'il nous fasse un petit bilan en cours de route, parce que là on l'a vu, on était en début de semaine, le marché s'est arrêté jeudi, donc il n'était pas tout à fait, les chiffres n'étaient pas au point, on les aura plutôt la semaine prochaine, je pense. Mais
après aussi, le marché, c'est quand même un événement qui principalement, enfin, on va dire la période la plus intense, c'est surtout la première semaine. Là, déjà, quand on l'a interviewé, il nous disait qu'on s'acheminait vers la fin, quoi. Il n'avait pas encore tout le bilan global, quoi, mais que voilà.
Oui, ça c'était en train déjà de se calmer un petit peu. D'ailleurs, ça se voyait, il y avait un petit peu moins de monde, moins de foule. On le sent quand Cannes se vide un petit peu. Mais donc, voilà, on lui demandait de faire à mi-parcours un petit bilan, nous dire qu'est-ce qui était les nouveautés potentiellement, les temps forts, les pays qui ont émergé, notamment l'Argentine. C'est ce qu'il nous a dit. Donc voilà, il nous fait un petit bilan très rapidement de ces temps forts, enfin, en tout cas de ce marché, en cours de marché en tout cas.
On écoute ça.
Les pays sont toujours un peu les mêmes. Il y a un peu plus de progression sur États-Unis, France, Espagne, Italie et des pays comme l'Argentine, par exemple, cette année, qui est sensiblement plus présente. Et puis, j'en oublie peut-être un. En nombre de films, on est à peu près pareil. Il y a à peu près un peu moins de 3000 titres qui sont représentés, dont à peu près 1000 projets et puis 2000 films terminés. Toujours à peu près 1400 projections au marché. Donc c'est les chiffres sont très stables. Les tendances géographiques, la Chine est toujours très présente. C'est a priori toujours le quatrième pays. On est en train de finir les chiffres, ça peut se jouer un chouï après. Mais enfin, la Chine a énormément progressé ces dernières années. Cette année, elle est stable. Et puis, il y a des continents alors qui bougent un peu, notamment l'Afrique. L'Afrique est plus présente cette année. Alors, c'est pas encore une explosion. Hein, on parle pas de milliers de professionnels africains, mais on a notamment dans le village international, qui est la partie autour du palais où les pays et les régions sont représentés, on a cette année deux pavillons africains qui ont évidemment fait venir beaucoup de professionnels et de d'artistes des différents pays, à la fois francophones et anglophones. Il y a eu beaucoup de conférences, beaucoup de rencontres, et je crois que l'Afrique est certainement une des régions du monde qui va beaucoup progresser, à la fois sur le plan de la créativité, de la production dans les années qui viennent, et puis c'est aussi un très grand marché. C'est un marché qui est en train de se structurer, se développer, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne les salles, où il y a la construction de salles en ce moment en Afrique, et puis alors surtout sur justement tout ce qui est streaming et mobilité, où en Afrique il y a une énorme consommation de contenu sur les mobiles. Et voilà, moi je pense qu'en tout cas on doit considérer, et notamment dans des pays comme ça, que quelque chose qu'on regarde sur un mobile peut être un film quand même, et qu'on ne peut pas se restreindre à l'idée qu'un film n'est que quelque chose qu'on peut voir sur un grand écran.
Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, Arnaud, il a aussi parlé de ce qui se passe avec les plateformes, avec Netflix notamment.
Bah oui, Netflix, Amazon, Apple, je crois, était un petit peu décevant. Je crois que c'est lui qui nous en a parlé, pas hier, parce qu'ils n'ont pas trop proposé de trucs. Oh non, alors je l'avais entendu ça, pendant le marché. Mais bon, enfin oui, les plateformes sont évidemment présentes à Cannes, parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est un lieu de business. Et comme c'est un business qui est en plein développement, en pleine explosion, forcément, ils sont là pour acheter du contenu, parce que c'est aussi la caractéristique de ces plateformes, ce sont des gros dévorationnaires de contenu.
Des gloutons.
Voilà. Et donc, leur présence ici est justifiée par ça. Et on va écouter Jérôme Paillard nous parler de cet aspect plus ou moins nouveau du marché.
D'une manière générale, évidemment, le cinéma évolue. Enfin, on le voit, on le lit absolument partout. Les modèles économiques changent. Et ça n'a fait que se confirmer cette année. C'est-à-dire, évidemment, le rôle de plus en plus important des plateformes dans la distribution des films. Ce qui, évidemment, a un impact sur ce qui se passe dans un marché. Puisque, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un marché du film ? C'est un endroit, c'est un salon professionnel où les vendeurs de films, les vendeurs internationaux, représentent des tas de films de producteurs. Et essayer de trouver pour chacun des films des distributeurs dans chaque pays. Alors c'est évidemment l'inverse du modèle des plateformes, où les plateformes, en gros, elles peuvent produire un film, elles vont directement voir un producteur, et puis elles vont acheter le film sur le monde entier et le sortir sur la plateforme. Donc évidemment c'est un raccourci, un court-circuit on pourrait dire, qui impacte directement le marché. Alors tout se passe pas comme ça, la totalité du marché, heureusement, n'a pas subi ce raccourcissement, mais c'est évidemment une tendance forte qui fait que le marché est plus compétitif et plus sélectif.
Perrine, qu'est-ce qu'il vous a raconté d'autre?
Il nous a parlé aussi, ce qui est intéressant, parce que la question, voilà, quand on aime le cinéma, on ne sait pas toujours forcément ce qui se passe un petit peu en coulisses, comment un film se finance. Et c'est vrai que, pour le coup, là, encore une fois, le marché, c'est la zone essentielle pour ça. Et il nous a parlé un petit peu des financements publics, qui sont très importants dans le financement d'un film. Par exemple, en France, on ne peut pas dépasser les 60% d'ailleurs de financement public sur un film, mais ce n'est pas le cas dans tous les autres pays, puisque dans d'autres pays, il n'y a pas ces financements, ces aides publiques, elles n'existent pas. Donc, il nous parle des systèmes de coproduction, il nous parle des systèmes de financement des fonds privés, et donc particulièrement de ces fonds publics qui marchent bien en Europe, mais qui, par exemple, sont inexistants dans des pays comme l'Inde ou la Chine, et voir comment fonctionne cet écosystème, en tout cas au niveau des financements.
Au marché, notamment dans le village international, on a tous les pays sont là pour présenter leurs mécanismes de financement qui sont finalement maintenant dans presque tous les pays du monde, même les États-Unis ont des mécanismes, notamment régionaux, d'incentives, enfin, qui sont surtout des mécanismes pour faciliter et soutenir les tournages étrangers. Ensuite, il y a des pays où il y a vraiment du financement public direct, notamment dans le développement. Alors, c'est le cas en Europe, la France, etc. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Ça existe en Amérique latine. En Asie, ça existe relativement peu. Ça existe un petit peu en Corée, par exemple. Mais en Inde ou en Chine, il n'y a pas du tout ce type de financement. Ce qui fait que les coproductions avec ces pays-là sont en réalité un petit peu ou compliquées ou factices. Le mécanisme, l'avantage d'une coproduction, ce qu'on appelle une coproduction officielle, c'est qu'au fond, par ce mécanisme de la coproduction, le film va bénéficier des avantages des deux pays. C'est-à-dire que si c'est une coproduction franco-allemande, il va bénéficier des mécanismes on va dire de soutien ou de financement français et allemand. Mais si on fait ça entre la France et l'Inde ou la France et la Chine, comme dans ces pays-là, il n'y a aucun mécanisme, en gros, ça va donner aux Indiens ou aux Chinois les avantages français, mais pas réciproquement. Donc c'est vrai que ce n'est pas très, très incitatif. Alors effectivement, ni la Chine ni l'Inde n'ont du tout de mécanisme de soutien encore.
Et on termine, Arnaud, avec le dernier sujet qu'il a évoqué avec vous.
Voilà, oui, on a un petit peu parlé, en fait, on peut avoir tendance à croire, en général, que les festivals se font concurrence les uns entre les autres. Et dans les faits, même si ça existe quand même à un certain degré, mais dans les faits, il y a plus souvent des tentatives de partenariat, pour s'enrichir mutuellement. C'était le cas, je l'évoquais tout à l'heure, je crois, un petit peu quand je parlais de l'animation sur le marché, mais du Festival d'Annecy, hein, qui est un des plus vieux festivals de France. Hein, je crois même peut-être le plus vieux, il me semble. Ça a quand même
peut-être
60 ou... C'est Cannes, hein. Ouais, bon, ouais, d'accord. Moi, ce truc-là. Oui, enfin, c'est quand même un très vieux festival, un très très bon festival. Annecy, c'est pour les fans d'animation. Et il y a un marché là-bas aussi. C'est vraiment un festival d'une richesse chaque année de plus en plus accrue. Et donc, Annecy était présent, par exemple, cette année à Cannes. Ils ont organisé quelques événements, justement, autour de leur partenariat. Et donc, Jérôme Paillard nous parle un petit peu des échanges entre festivals.
Alors, non, il n'y a pas du tout de cannibalisation de l'un par l'autre. Les gens qui viennent à Cannes ne vont pas forcément à Annecy. On a exactement la même chose sur le documentaire, parce qu'on fait énormément de choses sur le documentaire. Alors d'abord, nous, on ne s'intéresse vraiment que au documentaire ou à l'animation de cinéma. On est plutôt l'animation sur le film adulte, pas tellement les films pour les enfants. Et on est vraiment... Il y en a un peu, mais enfin, notamment dans cette journée qu'on a fait sur l'animation, on était même vraiment centré sur l'animation adulte. Voilà. Et puis, on n'est vraiment que cinéma. Annecy, c'est de l'animation qui n'est pas que cinéma. Les festivals de documentaires, si on prend IDFA, etc., ce sont des festivals qui couvrent l'ensemble des documentaires. Donc, il y a vraiment une complémentarité. Et d'ailleurs, enfin, je mets les deux en parallèle, c'est la même mécanique. Annecy est toujours présent à Cannes. Les festivals de documentaires, IDFA, CPHDoc, etc., sont présents sur le Doc Corner, où on a effectivement une activité autour du documentaire. Je pense qu'il y a vraiment, les gens ont besoin de se rencontrer souvent, de rencontrer des acteurs différents. Et à Cannes, justement, ils peuvent rencontrer des gens, oui, et puis des gens qui verront pas ni Annecy, ni dans les autres festivals de documentaires. Voilà, donc on travaille vraiment la main dans la main. On n'est pas, encore une fois, même avec les autres marchés de cinéma, on parlait de Berlin et de l'AFM, il n'y a pas du tout de compétition et on a beaucoup plus intérêt à accompagner nos clients, qui sont les mêmes tout au long de l'année, de les accompagner, de les soutenir et d'essayer de leur faciliter la vie dans un moment où on sait que c'est quand même pas très très simple.
Voilà, merci. On a fait le tour du coup de ce marché du film grâce à Arnaud et Perrine. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.
Puis on remercie énormément Jérôme Paillard qui a été d'une disponibilité et d'une gentillesse.
Exactement. Merci à lui d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci à Solène et Quentin pour la réalisation. Merci à Camille, à Juliette pour la prod. Retrouvez-nous pendant tout le Festival de Cannes sur Binge.audio, Apple Podcast et toutes vos applis de podcast. L'ensemble des épisodes sont à réécouter sur ces plateformes. Au revoir.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.